Oui, bonsoir Pierre Messulam, je suis ingénieur. Je vais revenir d'abord remercier les intervenants pour l'intérêt passionnant du débat de ce soir. Et moi, je suis passé par l'école des mines et pas par l'école des ponts, et je voudrais vous livrer une analogie qui m'est venue en vous écoutant ce soir. Ça me rappelle mes cours de système dynamique et des problèmes d'instabilité des grands systèmes. C'est-à-dire que moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a un effet de taille qui change la nature même des problèmes et de la nature des risques et de la nature de la régulation qu'on peut mettre en face. Lorsque je vous entends expliquer notamment les thèses de François, ce qu'il faudrait adapter à la gouvernance intérieure des entreprises pour parer les risques, ça m'évoque complètement ce qu'on a dans la théorie des systèmes où, quand on est confronté à une zone d'instabilité, on dit que si on raffine davantage les connaissances des conditions initiales et le raffinement des variables de contrôle, alors on évite l'instabilité. Mais en fait, quand on poursuit un peu plus loin dans la théorie des systèmes, on se rend compte qu'on peut l'éviter jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain effet de taille, en fait, ou de seuil, et qu'ensuite on retombe essentiellement dans la même question. Donc, cette interrogation que je me pose en vous écoutant m'amène à me demander s'il n'y a pas un dilemme inexpiable entre une forme d'élargissement du marché qui, provoquant une explosion combinatoire par sa taille, rend de toute façon de plus en plus difficile, voire aléatoire, une forme de régulation. Donc ça, c'est le dilemme, la globalisation au nom de l'efficience et, j'allais dire, de l'efficacité prouvée dans certains cas. Et en même temps, le risque systémique qui est, j'allais dire, inscrit dans, si on peut dire comme ça, les équations de base de la création du marché, et qui fait que ce risque ne peut de toute façon que se révéler à un certain moment et à un certain stade de taille, notamment d'échange ou de complexité des mécanismes. Et ce qui me fait dire, là je pense que ça va faire sourire mon ancien maître Claude Rivelin, qu'on est quelque part dans une aspiration, j'allais dire, l'image qui m'est venue, François, tout à l'heure, c'était sans doute parce que j'ai aussi apprécié tes travaux historiques, quelque chose de l'ordre de la création d'un ordre des Bernardins dans les entreprises permettant de réguler les crises de possession d'un certain nombre d'acteurs du marché. Quelque chose un peu de l'ordre des possédés de Loudun. Ils sont quand même devenus fous, c'est impossible de leur faire entendre raison, quoi qu'on leur dise. Non, ils n'écoutent pas. Mais il faut quand même que quelque part, il y ait des gens qui, à un moment donné, d'une part, éclairent le prince, s'ils peuvent, et en tout cas sauvent l'institution au nom d'une forme d'unité. Donc, moi, je reste avec beaucoup d'interrogations, mais c'est extrêmement fécond, sur est-ce que le problème qu'on essaye d'aborder est seulement un problème qu'on peut décrire, ou est-ce que c'est un problème d'écrire et donc apporter des régulations, ou est-ce que ce n'est pas tout simplement la nature même des choses qui, lorsque la taille et la complexité augmentent, finit par changer la nature du problème et qu'on essaye de le traiter en prenant des exemples à une certaine échelle, et en fait, les outils qui sont valables à une certaine échelle peuvent s'avérer totalement inopérants à une autre échelle.
Bon, je crois qu'il y aurait effectivement un débat passionnant à mener sur les rapprochements entre la physique et l'histoire du christianisme que tu as abordé là. Bon, je crois que ce que tu as dit est très très intéressant, et je crois qu'effectivement le problème a changé de nature. C'est-à-dire qu'on a, depuis quelques années, on parle d'interconnexion, le risque sur les finances publiques est considérable. Il avait déjà été dans des périodes, notamment dans les années 30. Bon, donc on ne peut pas dire que ce soit une situation complètement inédite, mais quand même, il y a un changement dans la nature du problème et on est confronté, en fait, à une espèce de territoire financier unifié, hein, de territoire économique et financier unifié, en tout cas financier certainement unifié, qui a sa propre vie. Cette vie échappe, selon moi, assez largement à la maîtrise des différents acteurs, entreprises, financiers. La métaphore du film 2001, l'Odyssée de l'espace, me vient à l'esprit. Donc on a une espèce de chose qui est en train de s'emballer, j'aime ta métaphore de sciences physiques, de système qui est en train d'échapper donc au contrôle. Et face à ce système, on a un territoire politique qui demeure extrêmement fragmenté. Et je crois que ça, c'est un problème important qu'on a peu évoqué, que j'essaie d'évoquer dans les livres. C'est-à-dire, je parle effectivement de réforme à l'intérieur de l'entreprise, mais ce à quoi je tiens le plus, finalement, comme recommandation, c'est à la nécessité d'une coordination internationale, mais bien plus forte. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est effectivement la mise en scène d'une gouvernance mondiale avec les photos du G20, un certain nombre de choses. Mais cette gouvernance, le terme d'ailleurs, enfin, il faudrait en débattre beaucoup, il masque l'absence de gouvernement mondial. Gouvernement mondial, c'est une chose un peu utopique. Mais on voit bien que face à cette espèce de machine globale financière dont même les acteurs parlent de façon maintenant de plus en plus modeste. Enfin, je crois que Laurent parle d'une façon très simple et en même temps modeste de ces sujets qui effectivement échappent un peu aux acteurs. Je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, 15 ans, un banquier se serait exprimé de la même manière sur la finance. Bon, on est confronté à cela et la réponse politique est extrêmement fragmentée. Et c'est pas seulement les problèmes de la zone euro. Je crois qu'effectivement, il faut inventer un système en face de cet autre système qui s'emballe.
Oui, bonsoir, Pascal Deschamps du magazine Enjeu les Échos. Ouais, la question qui me tarabuse, c'est sur la possibilité même d'arrêter la machine infernale. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne peut pas venir du système lui-même, parce que les financiers, à mon sens, sont un peu comme les diplomates. Il y a certains mots qu'ils ne peuvent pas prononcer, car lorsqu'ils les prononcent, les choses adviennent. Les diplomates ne parleront jamais de guerre, et un banquier ne vous parlera jamais de krach, parce que, sauf le jour où le krach aura eu lieu. Quoi. Donc ce sera toujours trop tard. Et alors, justement, je voulais rebondir sur deux petits faits. À Davos cet hiver, le chroniqueur du Financial Times, quand on lui demandait, à votre avis, quand la crise a-t-elle commencé, il a répondu en août 2007, quand BNP Paribas a suspendu deux de ses fonds. Et le deuxième, qui a peut-être précédé de quelques semaines cet événement-là, c'est raconté dans le livre de Ron Suskin, Confidence Man. Et c'est AXA, en changeant le mode de rémunération de ses fonds, qui a mis la puce à l'oreille de hedge fund, qui se trouvait être copain du patron du BS États-Unis, qui lui-même est devenu copain d'Obama en lui racontant l'histoire et en expliquant à Obama ce qui allait se passer. C'est pour ça, là, si M. Tréca voulait bien revenir éventuellement sur cet incident. Qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience? Parce que visiblement, à ce moment-là,
c'est une question extrêmement intéressante. Et vous parlez de août 2007 et la suspension par BNP Paribas du remboursement de certains de ses fonds à l'époque, qui avait fait effectivement grand bruit. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, vous avez un système qui devient un peu nerveux, un peu inquiet, et puis brutalement, quelqu'un dit « le roi est nu ». Et puis, le petit garçon dit « le roi est nu ». Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et je me souviens fort bien, parce qu'à l'époque, j'étais en Asie, du déclenchement de la crise asiatique de 97, si je me souviens bien. Et la bourse de Hong Kong a dévissé ce jour-là, c'était un lundi, ce jour-là de 8%. Et tout le monde s'est dit, ça y est, c'est parti. C'est parti pour la crise. Mais c'est-à-dire, vous êtes dans un état de tension, un peu comme un état très électrique, comme quelquefois il y a des atmosphères électriques. Et puis, brutalement, il y a quelque chose qui se passe, un événement parfaitement anodin, tout à fait mineur, comme celui de BNP Paribas en août 2007, et tout le monde se dit, ça y est, c'est parti. Et trois jours avant, vous aviez des dizaines d'événements du même style, et qui n'ont eu aucun impact. Et puis ce jour-là, cet événement-là, à ce moment-là, voilà, c'est parti. C'est très très bizarre, c'est comme ça, et j'avoue que je n'ai pas vraiment d'explication sur ce sujet. Maintenant, je reviens sur le premier point, votre première question. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pessimisme implicite dans votre question. Quand vous regardez les années Clinton, Clinton a très très bien géré les États-Unis. Et donc, il avait mis les États-Unis sur une trajectoire de retour à l'équilibre des finances publiques, d'assainissement des comptes, et c'était excellent. C'était absolument excellent, c'était exactement ce qu'il fallait faire, et il l'a fait. Bon, ensuite, pour les raisons dont chacun se souvient, les choses ont changé. Mais les Allemands, comme le rappelait Jean-Michel Yolin tout à l'heure, sont partis il y a une dizaine d'années sur une politique qui était très sage. Voilà, il arrive qu'on puisse avoir des politiques très sages, et c'est même, heureusement, relativement fréquent.
Et des hommes politiques qui acceptent de sacrifier leur carrière politique, ce qui a été le cas en Allemagne.
Ça n'est même pas le cas de...
Si, mais ah, si, si, si. Schröder, bien sûr. Hein.
Oui. Monsieur.
Bien, Michel Bourdin, je suis un chef d'entreprise à la retraite. Je ne parlerai pas du cuivre, mais peut-être du blé ou de l'orge. Hein, et qui fait que dans ces métiers-là, eh bien, on ne sait plus où on va, on ne sait plus faire un prix
de revient.
Vous
parlez du blé, du vrai blé ou de le...
Oui, non. Oui, ah, du blé. Orge, si vous préférez, maïs, riz. Et on ne sait plus faire un prix de revient, un prix de vente non plus sur quelques mois pour négocier avec la grande distribution quand on ne sait pas du tout comment le prix va évoluer. Donc, pour être concret, et je serai relativement simple, peut-être un peu naïf, la spéculation financière n'apporte rien à l'économie réelle, ça on le pense, mais joue en vue d'un enrichissement sans cause et la pollue littéralement. Donc, pourquoi ne pas réserver les marchés aux seuls opérateurs réels en supprimant tout simplement les marchés à terme pour protéger l'économie réelle et en conservant le marché au comptant ?
Oui, mais... Monsieur Tricat,
je vais répondre à ça. C'est oui. Pour moi, c'est une très bonne question. Il y a un Français qui est plus connu du prix Nobel ou du jury Nobel que des Français, qui s'appelle Maurice Allais et qui était exactement sur cette théorie.
Mais vous aviez dit tout à l'heure qu'un marché ne peut pas marcher sans spéculateur.
Justement, s'il n'y a plus de marché, il n'y a plus de spéculateur.
Il n'y a plus de marché.
Non, je dirais que c'est effectivement les questions qu'on se pose de plus en plus. Il y a des thèses encore plus radicales qui sont formulées, par exemple, et si on fermait les bourses, si on arrêtait donc tous les marchés de capitaux, ou alors des thèses sur une espèce de refragmentation de l'économie globale. Bon, ce sont des choses qui tournent autour des travaux d'André Orléans. Je crois que ces choses peuvent être critiqués par certains, mais à mon avis, si le monde financier et le monde politique ne trouvent pas l'approche qui permet vraiment une réduction du risque posé par le monde financier aux sociétés dans lesquelles on vit, on évoluera de plus en plus vers des solutions radicales, à mon avis.
Pierre Couvaigne des Annales des Mines. Je me demande dans quelle mesure ces phénomènes de déséquilibre croissant ne sont pas largement liés à l'essor des technologies de l'information qui ont permis de multiplier la vitesse des transactions, en ont réduit le coût et ont associé des marchés qui auparavant fonctionnaient de manière assez distincte. On a cité plusieurs marchés à terme, celui du cuivre. Moi-même, j'ai travaillé dans la logistique pétrolière. Et quand il y a un tanker qui part du Moyen-Orient, le temps qu'il arrive en Europe occidentale, en général, il a changé 30 fois de propriétaire. Donc on peut se demander véritablement si ça apporte quoi que ce soit à l'économie réelle. Ce qui est, je crois, l'origine du problème, c'est que la vitesse des transactions qui se font par voie électronique empêche le temps de la réflexion et empêche le fonctionnement des mécanismes prudentiels qui existaient auparavant dans les établissements financiers. Et en pratique, le mimétisme que soulignait François Valérian peut être lié à ça. C'est-à-dire que quand on effectue des transactions à toute vitesse, comme on n'a pas le temps de réfléchir, la seule solution, c'est de faire ce que font les autres, c'est de suivre le mouvement. Il y a un exemple typique, c'est celui du trading à grande vitesse. Tout ce qu'on fait, finalement, c'est quand ça monte, on achète, mais on l'achète un tout petit peu plus vite que les autres. Quand ça baisse, on joue à la baisse et puis on vend un tout petit peu plus vite que les autres. Et tout ça, ça entraîne de grandes incertitudes, enfin un accroissement des déséquilibres. On sait bien que on a une distribution de Pareto quand on aligne la valeur sur ce qu'on pense que les autres ont déjà fait ou sur les valeurs antérieures. On a des Pareto, donc des distributions à queue épaisse, et puis on a de plus en plus des risques de déséquilibre. Donc j'aimerais bien connaître l'avis des orateurs sur le rôle des technologies d'information.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le diagnostic. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, ces technologies ont considérablement amplifié le risque. Maintenant, ce qui est difficile, je pense, d'identifier, ce sont les choses qu'il convient de réguler précisément. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ce que tu évoques, donc des transactions à grande vitesse. Quel est le problème réel posé par ces transactions? Bon, j'ai lu différentes sur le sujet, et puis je suis loin d'être un expert là-dessus, et je pense que ça fait partie de la complexité du problème, c'est-à-dire que maintenant, toutes ces choses sont devenues tellement complexes, et bien qu'on ne sait plus trop par quel bout commencer, ni comment réguler. Mais effectivement, il y a un risque qui a considérablement augmenté du fait de ces technologies.
Enfin, je suis un peu en désaccord. C'est-à-dire, je vous avais tout à fait raison de dire que la technologie permet la connexion des marchés et la profondeur, la largeur, etc. des marchés. Ça, je pense que vous avez tout à fait raison de le dire. En revanche, est-ce que c'est ça en soi qui accentue l'instabilité des marchés? Je ne suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Et les programmes de trading à grande vitesse. En fait, si je peux juste être un peu technique, en général, ce sont des choses qui... Vous avez des indices boursiers qui sont cotés, et puis vous cherchez à reproduire un indice boursier avec non pas la totalité des valeurs de l'indice, mais simplement une fraction. Par exemple, il y a 100 valeurs dans un indice, vous cherchez à reproduire l'indice avec 10. Et puis, faites les calculs très très vite, de telle sorte que la moyenne calculée sur les 10 anticipe l'évolution de l'indice. Et puis, vous achetez l'un et vous vendez l'autre. Et tout ça, ça se fait en quelques dixièmes de seconde. Bon, ça, en soi, à mon avis, vous achetez les valeurs et vous revendez l'indice, ou bien vous achetez l'indice et vous vendez les valeurs. Et puis, vous faites un profit ou une perte, mais en général, vous cherchez à faire un profit, et c'est comme ça que vous faites. Bon, ce mécanisme-là, je ne vois pas bien s'il accentue l'instabilité des marchés. J'en suis pas convaincu. Ce qui est sûr, c'est que ça rend le marché de plus en plus grand. Ou ça profite de la taille du marché et ça y contribue.
Dominique Gac. Je ne vais pas parler de trading de haute fréquence, mais juste un petit point de statistique. Tout est quand même fondé sur la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est un certain nombre d'observations qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Oui, à partir du moment où on globalise un certain nombre de choses, notamment des marchés, etc., le marché de l'immobilier au Wisconsin est absolument indépendant du marché de l'immobilier, ailleurs. Donc, à partir du moment où ces deux marchés sont connectés, on ne parle plus d'investissement identiquement distribué et totalement indépendant. Ils sont corrélés, donc on crée un système de Pareto, on crée des queues épaisses de distribution, et à ce moment-là, les réactions sont beaucoup plus brutales, puisque ce sont des réactions, je dirais, en chaîne. Hein, ce sont des réactions en chaîne type atomique, si j'ose dire. Hein, et donc, à ce moment-là, on crée du risque. Et on crée un risque qui est tellement difficile à estimer qu'en face de ça, il est particulièrement complexe de savoir quelle est la quantité, par exemple, de capitaux propres qu'il faut mettre pour pouvoir assurer un atterrissage raisonnablement en douceur. Donc, tout ce qui est interconnexion, etc., contribue peut-être au fait que l'information est partagée par tous, etc., mais ça contribue beaucoup à l'augmentation du risque et à la brutalité des mouvements boursiers, des mouvements de valeur.
Alors, dernière question, Didier Hollot.
Oui, merci, Didier Hollot, ingénieur. Je voudrais juste porter un témoignage et qui rebondit sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le Market for Corporate Governance. Une part de cette action a consisté à diffuser à des niveaux relativement bas dans l'entreprise une part variable extrêmement importante indexée sur des résultats de court terme qui contribue à ce que l'action rationnelle d'un cadre pas forcément très haut placé dans une entreprise aujourd'hui et de prendre du risque et d'optimiser son revenu variable, parce que statistiquement, le temps que le risque se manifeste, il aura empoché beaucoup plus avec cette stratégie-là qu'en sécurisant le risque de son entreprise. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de régulation possible et il faut être beaucoup plus ambitieux que tu ne l'es, François, sans réguler la quantité de parts variables dans la rémunération des cadres dirigeants des entreprises.
Moi, j'aurais une réponse, non pas sur la part variable, mais sur une chose très importante que Didier a dit, c'est cet aspect de la vitesse des trajectoires individuelles dans l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises bougent de plus en plus, les gens bougent à l'intérieur des entreprises, et quand vous avez des périodes, disons, de forte spéculation, de forte prise de risque, eh bien, la tentation est forte, effectivement, d'embaucher non seulement un salaire, mais aussi une promotion, de recueillir des bénéfices immédiats d'une prise de risque, et puis après, eh bien, on sera ailleurs, et de toute façon, on ne sera jamais inquiété sur la décision qu'on aura prise. Ça, c'est vrai des entreprises financières, c'est vrai aussi des entreprises industrielles, et je crois que c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte.
Donc, on arrive à la fin. Alors, j'ai une question à François Valérian. Ton livre est sorti depuis un certain temps. Il y a une version anglaise, d'abord, que tu as traduite en français. Est-ce que tu as eu des réactions et est-ce que ton idée de mettre de muscler les responsables de risque dans les entreprises, dans les banques, est populaire?
Populaire, si elle était...
Non, partout, oui, j'ai dit, dans les entreprises et dans les banques, partout.
Si elle était devenue extrêmement populaire, ça se saurait davantage.
Non, c'est-à-dire, comme tu dis, il ne peut pas y en avoir une seule. Soit c'est une idée qui est complètement en l'air et utopique, soit les choses avancent.
Non, moi je crois que l'une des choses sur lesquelles j'ai eu le plus de réactions, c'était davantage de mes collègues de la société civile, hein, ou d'organisations non gouvernementales, ou de gens préoccupés par ces questions de gouvernance. Et ce qui est frappant, c'est à quel point, et ça peut être aussi mes quelques mots de conclusion, ce qui frappe mes amis donc, qui ont réagi à ces choses, c'est que finalement, vous avez donc différentes structures de gouvernance, mais qui produisent du discours de gouvernance. Vous avez, il est très intéressant d'étudier de ce point de vue les plans d'action du G20. Vous avez donc des plans d'action qui sont actualisés à chaque sommet. Et finalement, ce sont des plans d'action d'un gouvernement qui n'en est pas un. C'est-à-dire que le G20 donne un certain nombre d'indications, de directions, mais ce sont des entités qui ne dépendent ni du G20, ni des gouvernements membres du G20, comme par exemple les différents organismes qui fixent les ratios prudentiels, hein, dont... vous avez parlé, Dominique, eh bien, qui sont chargés plus ou moins de faire un travail. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu, non seulement à la coordination, à une coordination internationale bien plus forte des puissances publiques, mais aussi à une, non pas à une nationalisation, mais à une internationalisation, mais en tout cas à reprendre dans la sphère publique un certain nombre de choses qui ont été trop confiées à la sphère privée et à l'entente des entreprises entre elles. Je crains que les ratios prudentiels ne fassent partie de ces choses à laquelle la puissance publique devrait davantage s'intéresser, parce qu'on on les a beaucoup cités comme étant liés à la crise, et quand on lit attentivement les calendriers, les échéanciers qui sont maintenant donc évoqués pour la mise en œuvre de ratios plus importants, on est reparti dans une durée incompatible avec l'urgence qui était invoquée au départ. Donc il y a un enjeu d'internationalisation, mais au sens de reprise dans la puissance publique d'un certain nombre de choses qui ont été trop abandonnées à la puissance privée.
Je pense que le livre de François Valérian est en vente, je ne sais pas où, si c'est à la sortie ou ailleurs. Je n'ai aucun intérêt financier, mais je vous recommande vraiment sa lecture. C'est de ces dernières années, c'est un des livres que j'ai lu qui m'a marqué le plus, et pourtant j'en ai lu beaucoup. Alors, il est dense, mais il n'est pas difficile à lire, sauf si vous voulez tout comprendre des dérivés. Là, vous n'y arriverez pas forcément, mais vous pouvez sauter. Vous pouvez regarder la musique sans forcément comprendre toutes les paroles, mais l'ensemble se lit très très bien. Ayant lu ce livre, je me suis dit, il faut faire une soirée. Voilà. Donc c'était aujourd'hui, et nous pourrons continuer les discussions autour du buffet. Le livre se trouve quelque part, mais je ne sais pas où.
C'est un vrai plaisir. Merci.